Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 10 juillet 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, on va parler de petites voitures abordables avec Bugatti qui change de main.
Oui, effectivement. En fait, c'est une alliance qui est créée entre le groupe Volkswagen, Volkswagen Porsche Bugatti et le constructeur automobile croate qui porte le nom de Rimac. Donc, c'est des voitures très, très, très exclusives, mais c'est surtout des voitures électriques. Et ben, c'est ce qui manquait là chez Bugatti. On était un peu dans le même créneau de bolides super puissants, mais un avec des moteurs essence, l'autre avec des moteurs électriques, deux constructeurs bien différents parce que Rimac, c'est une entreprise qui est toute jeune et Bugatti qui a un passé absolument riche. Donc, c'est une association logique, mais qui peut quand même étonner. Et je peux pas m'empêcher d'avoir hâte de voir le premier véhicule qui va découler de cette alliance-là parce que, bon, on le sait, là, développer des bolides d'exception comme ça, ça se fait pas. Ça se fait pas en 15 minutes, là. Donc, ça va être intéressant de voir la part de chacun dans une nouvelle voiture.
Autre nouvelle, mais qui n'en est pas vraiment une, en fait, c'est qu'on parlait cette semaine sur le Guide de l'auto de l'abandon de plus en plus commun du lecteur CD dans une voiture. Et c'est drôle que cette nouvelle-là soit sortie cette semaine parce que ma propre maman me disait, il y a quelques semaines à peine, s'ennuyer d'un lecteur CD dans sa voiture qu'elle a une clé USB puis de la musique
sur son téléphone.
On
là.
Est loin de là.
Ouais.
Elle s'ennuyait de ça, mais évidemment, on est complètement ailleurs aujourd'hui.
Oui, mais je peux imaginer effectivement qu'une certaine partie de la clientèle qui n'ait pas pris le virage, n'ait pas d'abonnement là, de la musique en diffusion continue sur son téléphone intelligent ou même sa clé USB et que le lecteur CD, ben on s'en ennuie. Et ben c'est ça. Cette semaine, on apprenait que GM retirait le lecteur CD de ses fourgons Chevrolet Express et GMC Savana, donc des véhicules absolument moderne et bien franchement, je sais pas pourquoi on l'enlève. Ça change.
C'était pas un lecteur cassette qu'il y avait là-dedans?
Ouais, quasiment un 8 pistes.
Hey, tu ris, mais j'ai récemment acheté une Volkswagen Beetle décapotable âgée de plusieurs années pour ma fille, sur laquelle elle apprend à conduire littéralement, puis c'est une 2004 dans laquelle il y a un lecteur cassette.
Ben oui,
alors déjà
absolument.
En 2004, un cassette, ça commençait à faire dur.
Ouais.
Mais
est-ce qu'il y a un lecteur CD?
Il n'y a pas de lecteur CD.
Ah oui, OK.
C'est qu'en 2005, on avait remplacé le lecteur cassette par un lecteur CD, mais évidemment, moi, j'ai acheté la 2004.
Oui, c'est ça. En 2004, ça commençait à être passé là, un peu la mode de cassette.
Absolument. Et ce qui est très drôle, c'est que depuis, ma fille s'est commandée sur Internet deux cassettes de Billie Eilish, qui est sa chanteuse favorite. Alors, je ne savais pas que les cassettes étaient revenues à la mode, mais elle m'a appris ça cette semaine. Bon, je savais qu'il y avait un engouement pour les vinyles, puis je comprenais pourquoi, mais les cassettes, dans ma tête, il n'y a rien qui sonne pire que ça. Et ça a l'air que ça revient à la mode.
La nostalgie fait faire bien des affaires.
Oui, mais tu ne veux pas être nostalgique de quelque chose que tu n'as pas connu. Alors, remarque que c'est
oui,
ton cas.
Oui, absolument. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible.
Ouais.
Donc, un mot aussi peut-être pour dire que ce n'était pas les derniers là, à avoir des lecteurs CD. Honda Pilot et Nissan Murano en ont toujours. C'est ce que nous faisait remarquer notre collègue Guillaume Rivard, à qui on peut difficilement en passer une petite vite. Donc, deux véhicules qui sont dus pour un certain rafraîchissement. Et on peut s'imaginer que dans la prochaine génération de ces deux véhicules, il n'y aura pas de lecteur CD.
J'ai bien l'impression. Tu nous parles aussi de Lotus et de la nouvelle Emira.
Oui, une nouvelle voiture qui débarquera, c'est-à-dire chez Lotus. Je sais pas si tu as eu la chance de voir des photos.
Elle est magnifique.
Ben oui, absolument. Et bon, parenthèse, c'est rare qu'on dessine des voitures LED chez Lotus. On a un sacré coup de crayon et cette Emira n'en fait pas exception. Et pourquoi on prend le temps d'en parler? Ben, c'est parce que elle est pressentie comme pour être la dernière Lotus à essence.
Ouais.
Donc, je pense que ça marque quand même un point tournant, et parce que les prochaines Lotus évidemment seront électriques, c'est ce qui se dit dans le milieu. Donc on a droit à un moteur V6 surcompressé de 3.5 litres qui nous provient de chez Toyota, et il y a un 4 cylindres aussi turbo compressé qui va venir de chez Mercedes qui arrivera un peu plus tard. Boîte manuelle, hein, c'est une excellente chose. Automatique et double embrayage. Bref, on va avoir un beau choix de groupe motopropulseur pour conclure ce chapitre de la voiture à moteur à essence chez Lotus.
Oui, parce que je pense que les gens ne savaient peut-être même pas que Lotus est toujours de ce monde.
Ouais.
On vend quelques unités par année seulement. Alors,
est-ce qu'en Europe, peut-être, c'est un petit peu plus populaire qu'ici? Pas forcément.
Mais c'est un constructeur qui fabrique quelques centaines de véhicules par année. Là, c'est vraiment, vraiment embryonnaire pour le moment. Est-ce que la marque connaîtra un nouvel essor avec l'arrivée de ce modèle-là et ses versions électriques? À suivre.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Antoine, cette semaine, j'ai pris le volant du Ford Bronco Sport, véhicule dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois, et j'avais pas eu la chance de le conduire encore. Et c'était une version à 3 cylindres, donc j'avais certaines réserves. Version Outer Banks, donc le troisième niveau de finition d'équipement pour ce moteur-là. Et je veux pas dire que c'est suffisant, mais je suis presque tenté de dire ça. C'est certain que c'est pas la mécanique de prédilection, mais j'essaie de me mettre dans la peau du consommateur moyen qui va s'acheter un véhicule qui va peut-être tomber en amour avec l'approche stylistique qui a l'air d'un petit camion, alors que l'Escape, ben, ça a l'air d'une auto. Ça a l'air de rien.
On aurait pu dire Focus.
Ça a l'air d'une Focus. Et donc je peux comprendre, c'est ça, que le consommateur moyen va avoir un coup de cœur pour ce véhicule-là et sera pas nécessairement prête à débourser là, les 40 000 $ et plus nécessaires pour faire le saut vers une version à moteur 2 litres turbo. Et je m'imagine que justement, pour ce consommateur-là, le 3 cylindres, ça va être suffisant. Cela dit, comment ce moteur-là va-t-il vieillir? Ça, c'est une bonne question. Parce que le turbocompresseur, ben, est toujours là pour travailler.
Toujours sollicité. Tout
donc,
le temps.
C'est sûr que c'est pas génial pour une utilisation à long terme. Et, alors qu'on pourrait penser qu'il y a une économie à faire, pour la consommation, ben, j'ai eu la chance de le rouler pas mal et j'étais à 10 litres au 100, là.
Donc,
il n'y a aucun gain énergétique avec 3 cylindres. Donc, ce n'est pas mauvais en soi, mais ça n'apporte rien non plus. Offrez donc toute la gamme avec le 2 litres turbo et on n'en parle plus ensuite.
Ben, en fait, ou offrez un moteur 4 cylindres atmosphérique, ou encore mieux, offrez la motorisation hybride de l'Escape hybride dans un Escape de moins haut de gamme. De toute façon, cette motorisation-là va se retrouver aussi sous le capot du Maverick, lequel va, en passant, bouder le moteur 3 cylindres qu'on retrouve trouve dans l'Escape et dans le Bronco.
Est-ce qu'on a appris de nos erreurs en planifiant le produit qu'est le Maverick? Peut-être, oui.
Mais c'est sûr que le 3 cylindres, pour moi, c'est une mécanique à laquelle on ne touche pas pour du moyen-long terme.
Ouais.
Puis, malheureusement, si tu veux avoir un Bronco Sport avec un 4 cylindres, c'est plus de 40 000 $.
Oui, exactement.
Et l'autre problème de ça, c'est que ce moteur-là, pour une raison qui m'échappe...
Mais On ne peut pas remorquer.
Alors, limite de remorquage à 2200 livres avec le Bronco Sport à moteur 2 litres, alors que l'Escape, avec la même motorisation, tire 3005. Qu'est-ce qu'on a fait?
C'est très difficile à expliquer.
Quelle est la contrainte? Ford n'est pas capable de nous répondre adéquatement, mais toujours est-il, pour quelqu'un qui a besoin de remorquer un peu, une embarcation ou une tente roulotte ou qu'importe ce que c'est, avec le Bronco Sport, qui est un véhicule ironiquement plus aventurier que l'Escape, on ne peut pas le faire. Alors ça, c'est une sacrée grosse erreur en ce qui me concerne.
Oui, c'est contradictoire avec l'approche du véhicule. Un petit mot aussi. Le véhicule que j'ai essayé était là bleu-gris et c'était assez joli, mais à l'intérieur, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'aménagement, pour la présentation. Les sièges qui étaient bleus, le tableau de bord qui était bleu, des insertions là, de matériel rappelant un peu... du denim, donc du jeans. Oui. Quand on est habitué de conduire des véhicules avec des intérieurs gris foncé ou noir et on arrive là et on
c'est rafraîchissant.
C'est très rafraîchissant. On s'est forcé. C'est de bon goût. je pense ça valait la peine de le souligner.
Tu me parlais d'intérieur drab, gris et noir. Moi, j'étais au volant d'un Hyundai Santa Fe.
Oui, et veux-tu nous en parler de l'intérieur qui était drab et qui était plate?
Honnêtement...
Oui, mais l'ergonomie est là.
C'est un véhicule qui ne met d'aucun intérêt sur le plan émotionnel. C'est d'un ennui à conduire comme t'as pas idée. Mais le Santa Fe que j'ai conduit cette semaine a une motorisation hybride. Alors ça, j'étais curieux de l'essayer. Et tu sais quoi?
Parce que dans les dernières semaines, j'ai conduit le Tucson hybride et c'était pas ce qu'il y avait de plus convaincant. Fait que je suis quand même curieux de t'entendre pour le Santa Fe dans sa version hybride.
Alors, comme c'est à peu près la même motorisation, moi, j'ai vraiment tenté l'expérience. Pardon, j'ai fait 200 km avec le véhicule, OK? Je te dirais qu'à 70 % j'ai roulé dans des conditions urbaines, soit autoroute dans le trafic ou en ville.
Ce qui est généralement assez avantageux pour une mécanique hybride.
Ben oui, c'est ça. Mais j'ai circulé là à 70 % à peu près dans des conditions comme ça. Sinon, c'est de l'autoroute à 110. Et tu sais quoi? Tu peux rouler en mode électrique à vitesse d'autoroute à 110 km/h et le véhicule va rouler en mode électrique sans problème. Et j'ai été impressionné de voir le temps alloué à la conduite en mode électrique. J'ai fini, pour un véhicule de cette taille-là, parce que c'est quand même plus gros qu'un compact, là, un Santa Fe, à 6,3 litres au 100 km.
Wow.
Alors, j'ai vraiment été impressionné de son rendement, qui est carrément équivalent à celui d'un RAV4 hybride, mais qui, à prix égal, va t'offrir beaucoup plus d'espace et de confort et moins de niveau sonore. Puis l'autre truc qui est le fun, c'est que c'est pas une boîte CVT qu'on retrouve là-dedans. C'est une automatique à 6 rapports. Alors, quand tu pèses dedans, t'as une puissance qui est très adéquate. Le rendement mécanique est quand même intéressant. T'as le couple initial du moteur électrique jumelé avec la boîte automatique. Au début, c'est un peu curieux parce qu'on n'est pas habitué avec une boîte automatique. Mais
on avait adopté la même stratégie avec la Ioniq, si je me trompe pas, de prendre une boîte...
La Sonata.
Une boîte automatique. La Sonata aussi. Ouais. Et le résultat... Le résultat, à chaque fois, était intéressant. Là.
Sauf que là, vraiment, dans un véhicule de plus grosse taille, je trouve ça très intéressant comme formule. Et là, on va arriver en plus prochainement avec une version PHEV qu'on aura aussi chez Kia. Et ces versions-là devraient offrir 50 km d'autonomie 100 % électrique avant de tomber en mode hybride. Et là, ça veut dire qu'on aura droit à des crédits gouvernementaux pour ces modèles-là. Alors,
est-ce que sur le plan financier, la version hybride va tomber à l'eau pour le Québec, du moins?
Possible, parce que moi, j'ai l'impression que en plus, la stratégie de Kia avec son Sorento, ça sera d'abord d'introduire la version en fichable avant l'hybride régulière. Mm-hmm. Donc, ça, c'est l'autre truc qu'il reste à voir. Tu sais que je ne suis vraiment pas un fan de la mécanique 2.5 turbo et de la boîte double embrayage dans le Santa Fe et dans le Sorento également, parce que ce sont deux frères jumeaux. Donc, moi, je ne suis pas capable de recommander cette mécanique-là. Je trouve que c'est mal adapté au Santa Fe. Mais je peux te dire que l'hybride, pour quelqu'un qui cherche à avoir un véhicule polyvalent, spacieux, très bien équipé et peu gourmand, bien, c'est pas compliqué. J'ai fini avec la même consommation avec le Santa Fe cette semaine qu'avec la Honda Civic la semaine passée.
Voilà.
Pas des farces.
Et pour la Civic, c'était bien aussi.
Et pour la Civic, c'était bien.
Oui.
Voilà. Donc, exactement. On est parmi les moins gourmandes, là.
Ben oui.
Tu sais, une Mazda 3 consomme plus que ça.
Oui.
Donc, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Et c'est un 4 roues motrices en passant.
Oui.
Il y a des gens qui se posent la question.
Le système H-Track.
Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment, vraiment trouvé ça impressionnant. Pas excitant à conduire, non. Et esthétiquement, on repassera. Mais c'est quand même un véhicule garanti 5 ans, polyvalent, puis son rendement énergétique, c'est très efficace.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, ces dernières années, on a vu plusieurs circuits se fermer au Québec. Il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de contraintes au niveau de leur disponibilité. Bref, c'est pas facile pour la course automobile au Québec, mais il y a eu une petite lueur d'espoir avec l'ouverture récente du e-karting, dont l'ambassadeur est nul autre qu'Alex Tagliani qui est avec nous. Salut Alex!
Bonjour!
Oui, salut, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Dis donc, ce circuit-là que tu viens d'ouvrir, l'idée est venue de où exactement?
Oh my God! Écoute, c'est, je te dis, c'est un mix entre un rêve de il y a longtemps. Moi, j'étais... j'habitais à Vegas dans le temps, puis je voyais beaucoup de circuits intérieurs ouvrir. Ensuite, il y a eu des circuits intérieurs électriques avec des cartes électriques. Et puis, je savais qu'un jour après ma carrière en IndyCar, j'allais revenir au Québec. Puis, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Au fil des ans, j'avais une amitié avec Vincent Chiara, qui est un des plus gros promoteurs immobiliers au Québec.
Ben ouais.
Puis je pense que j'ai cassé sa tête pendant des années à lui dire que ça me prenait une bâtisse, je voulais ouvrir un centre de karting intérieur, tout ça. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres rencontres. Je suis contacté par Saint-Hubert, donc le président de Saint-Hubert. J'ai parlé de ça, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Mario Bouchard sur une piste de course, tous un peu passionnés de course et de karting en plus. Puis là, ben, en parlant de ça, les gens ont commencé à regarder un peu, à étudier. Je suis bien chum avec Jean-Frédéric Laberge, le gars qui est propriétaire du Dagobert à Québec. Fait que on s'est mis 6 partenaires ensemble qui ont tous chacun leur plus-value dans pas mal tous les secteurs qu'on a besoin d'être bon dans un centre comme ça, que ce soit la restauration, que ce soit l'amusement, que ce soit le karting, que ce soit l'informatique. Puis on s'est assis autour d'une table, puis quand est venue l'opportunité de trouver la place qui on pensait à l'être vraiment un spot incroyable sur le bord de l'autoroute 15, avec Vincent, on a tiré sur la gâchette, puis on a fait bouger nos contacts par rapport à la conception d'un centre comme ça. On avait tous été visiter des autres centres aux États-Unis. On avait visité ceux d'Andretti. C'est ça. Donc, c'est un mix d'un rêve qui date de presque de 20 ans. Puis, d'en parler continuellement à des gens que tu rencontres au fil des années, puis que tu montes une équipe qui ont la même vision.
Et peut-être pour ceux qui ont pas entendu encore parler de ce centre de karting-là, est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire comment il se différencie des pistes de karting plus traditionnelles?
Premièrement, évidemment, on est tous ben amateurs de karting. Donc, on voulait se permettre d'avoir une piste de kart avec les karts les plus sophistiqués au monde. Moi, j'avais une relation depuis longtemps avec Serge, une compagnie italienne qui fait des karts de compétition. Puis, je les ai vus développer un kart électrique avec la compagnie allemande Lind. Et, juste en parler vite, c'est un kart avec des pédales ajustables électriques, deux moteurs, un sur chaque roue, différentiel, récupérateur d'énergie quand tu laisses l'accélérateur, frein à disque ventilé en avant, pour le karting de location, là, c'est la coche, là. Puis la puissance, l'accessibilité de changer les maps, tout via ordinateur, c'est vraiment la coche. Mais pour le faire, ça nous prenait des justifications financières. Puis là, ça prenait une piste qui est quand même assez grande. Fait que là, ça nous prenait une piste qui est sur multiniveau. Donc, une bâtisse quand même assez haute, de 38 pieds de hauteur libre, avec une mezzanine de 16 pieds de hauteur pour être capable d'avoir une belle vue d'ensemble sur la piste. Donc, la piste, elle a trois niveaux. Tu as le rez-de-chaussée, ensuite tu as le deuxième niveau, puis tu as le troisième niveau, ce qui donne une très grande distance de piste. On a aussi une mini-piste pour les jeunes, les plus jeunes à partir de 6 ans. Cette piste-là peut joindre la grande piste, donc tu peux faire une super track. Puis ces deux pistes-là peuvent rouler, ces trois configurations-là peuvent rouler horaire anti-horaire. Fait que finalement, ça donne 6 configurations différentes. Mais dans le centre, on a 6 allées de bowling, on a 6 allées de lancer de la hache avec des tablettes pour le scoring. Au lieu d'écrire ça sur des feuilles de papier, on a une aréna de laser tag de 3500 pieds carrés. On a des salles de fêtes d'enfants, on a des salles corpo, on a un dark ride de la compagnie Triotech, on a un plancher interactif pour les plus jeunes, on a un lounge, on a un resto-bar en haut, on a une cafétéria en bas. Donc, on a beaucoup d'attractions. C'est pas mal plus que juste une piste de karting. C'est très, 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 très high-end. Je te dirais qu'au niveau visuel, quand tu rentres au centre, tu t'en vas sur la mezzanine, tu as l'impression d'être dans un supper club du centre-ville de Montréal avec le look, le feel, la luminosité d'un lounge. Ça n'a pas de l'air d'un hôpital au niveau luminosité, donc c'est très attrayant pour des lunchs d'affaires ou des soupers même. Venez voir les games de hockey. On a peut-être 49 télévisions puis des gros écrans aussi pour le sport. Donc, c'est très, très modulable, très flexible. Et c'est un centre très high-tech aussi.
Puis, tu n'as pas les avantages, bien sûr, des mauvaises odeurs qui émanent des cartes à essence dans un centre intérieur, là.
Ni des mauvaises intempéries parce que, justement, tu es à l'intérieur. Donc, c'est gagnant des deux côtés.
Ben, évidemment, comme tu dis, c'est exactement ça. Tu sais, on a voulu y aller très, très, très high-end. Donc, on a pu se permettre d'avoir un resto qui a un look incroyable parce que tout autour du centre, c'est très écologique. On est tempéré dans toutes les pièces parce qu'on a un système de ventilation avec beaucoup de zonage. Les cartes sont électriques, donc il n'y a absolument aucune odeur. Le premier commentaire que les gens puis les familles disent, c'est incroyable comment qu'on sent ici. La qualité d'air, la qualité de vie dans le centre est incroyable. Donc ça, c'est comme tu dis, c'est un gros plus.
Si, par exemple, moi, je veux y aller avec Fiston, faut que je m'attende à quoi comme expérience, considérant que mon fils a 12 ans?
Ben là, tu vas réserver. parce que si tu réserves pas en ligne,
je vais aller jouer au bowling.
tu risques probablement d'être obligé d'aller faire un peu de bowling ou du dark ride ou d'autres attractions en attendant ton tour pour faire du karting. Ça, c'est une chose. Fait qu'on pousse beaucoup la réservation en ligne. Ensuite, ton garçon, à l'âge de 12 ans, il va rouler avec le programme du kart adulte, mais en junior.
OK.
Toi, tu vas te permettre de rouler en mode standard. Qui est, même si on l'appelle mode standard, je te dirais que en ce moment, c'est les karts les plus rapides qui existent dans la province de Québec au niveau puissance, au niveau poussée, au niveau couple. Ça déménage assez. C'est ça. Puis peu importe la grandeur de ton garçon, mais quand il va s'asseoir dans le kart, ben il pèse deux boutons. Il ajuste ses pédales électriques. Son banc est ajustable aussi. Le volant, c'est un volant type F1 avec toute l'information digitale.
Okay.
Donc, puis comme je te dis, l'expérience d'un kart comme ça, c'est assez unique parce que, tu sais, moi, je peux vous en parler parce que vous connaissez beaucoup les voitures, mais en karting, le problème dans les pistes, c'est que t'as un shaft, un axe fixe en arrière,
mm-hmm.
puis t'as besoin de beaucoup de shaft, t'as besoin de beaucoup de caster pour tourner, parce que quand tu tournes des coins serrés, ça prend un peu de caster pour être capable de faire soulever la roue intérieure, mais c'est fait pour des cartes de compétition. Tandis que eux, ce qu'ils ont fait, la compagnie CRG, c'est qu'ils ont fait ça sur deux moteurs indépendants, puis ils ont mis un différentiel au milieu. Fait que peu importe les virages, les roues tournent à une différente vitesse, donc le kart est très, très, très agile dans les virages. Il suffit de décélérer un petit peu pour débarrer le différentiel pour être capable de tourner sur un petit rayon. Donc, le kart atteint des performances en courbe assez exceptionnelles. Puis maintenant, avec un peu d'adhérence sur le circuit, les gens ressortent de là puis sont fatigués. C'est pas de tout repos, là. C'est pas une petite promenade de dimanche.
Non. Ce que je comprends, c'est que dans le fond, la configuration du kart fonctionne un peu comme s'il y avait un vecteur de couple.
Oui, exactement. Donc, tu sais, les gens qui sont tentés de vouloir garder ça dans le fond puis faire des virages dans le fond, ben ils se pénalisent parce que en assouplissant l'accélérateur un peu, ben tu débarres un peu le différentiel en arrière. Donc,
okay.
Le kart va tourner beaucoup plus sec, va avoir un rayon de courbure beaucoup plus agressif. Tandis que quand tu conduis ça toujours en essayant de rester dans le fond, ben le différentiel en arrière, il est barré, fait qu'il pousse un peu le devant.
Ah ouais.
T'as une courbe qui est moins agressive, donc ton temps autour est un peu pire. Puis je te dirais même qu'il faut pas avoir peur de assouplir l'accélérateur dans des virages très serrés, parce que de toute façon, la reprise est instantanée avec le moteur électrique.
Ouais, le couple est instantané, bien sûr, ouais.
C'est pas comme un moteur 400 à essence où est-ce que c'est quand tu lâches l'accélérateur, ça prend, il y a un lag entre le moment où tu t'assouplis l'accélérateur puis la reprise. Donc c'est une différente conduite. Les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent encore aller mieux la deuxième, la troisième session. Donc ça leur demande d'être plus précis puis de le conduire différemment. Donc c'est le fun d'entendre les commentaires puis vraiment de voir les performances des cartes.
Tu nous parlais, Alex, d'un parcours sur trois étages. Est-ce que c'est toi qui as dessiné le tracé? Et si oui, qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette direction-là?
Ben, c'est un mix, je te dirais. La compagnie 360 Karting, qui est le leader mondial pour les pistes à multiniveau, avec des barrières de pistes, avec des absorptions de choc. Un peu comme des safety barriers dans le monde de la course automobile sur les pistes ovales, avec des barrières ouvrables puis ajustables, modulables. C'est cette compagnie-là qui a commencé à faire un design. Pourquoi? Parce que on est toujours limité par la distance entre les colonnes de l'immeuble qui était prédéterminée, donc l'espace dans le centre commercial à Sainte-Thérèse. Sur le bord de la sortie 23, sur le bord de l'autoroute 15, ben c'est sûr que le footprint de l'immeuble était celui-là. La construction allait être celle-là, puis les colonnes allaient être ceux-là. Donc, autre la mezzanine qu'on a fait bâtir pour être de 20 000 pieds pour avoir tout ce qui est bowling, restauration, lounge, salle corpo, ainsi de suite. On a resté vraiment propre à la construction de l'immeuble. Mais ensuite, quand ils nous ont proposé des choses, ben nous autres, on disait que on voulait avoir une espèce de virage en spirale, un peu comme le corkscrew à Laguna Seca. On voulait avoir un pit lane qui est sous la mezzanine. Comme ça, les cartes, tu les vois pas quand ils sont stationnés. Donc, ce que tu vois quand tu es sur la mezzanine, c'est un plan complet du circuit et non de la ligne des puits. La piste d'enfants, on la voulait sur un étage pour que les parents puissent voir les enfants tourner sur la piste tout le long de la piste et qu'ils ne les perdent pas de vue. On voulait avoir comme une espèce de grand virage en descente qu'on appelle, nous, le virage laser tag, parce qu'il y a un grand mur de 80 pieds avec plein de lumières LED qui est au-dessus de l'aréna de laser tag. Donc, quand on a commencé à essayer de maximiser le pied carré, ben il y a eu beaucoup de virages, puis il y a eu beaucoup de descentes, puis de courbes qui ont été faites pour être capable d'insérer du pied carré d'amusement sous la piste pour essayer de maximiser justement ce pied carré-là qu'on avait à disponibilité, puis pour faire en sorte que la piste soit le plus longue. Mais on a demandé certaines petites choses, certains virages, certaines lignes droites. Évidemment, on a beaucoup travaillé avec une piste qui s'appelle la Super Track, qui pour nous est importante lors de courses de ligue ou de championnat qui viendra dans le futur. Alors, c'est un travail conjoint là, qui a pris quand même beaucoup d'appels avec l'Europe les matins de bonne heure pour être capable d'arriver à ce produit fini-là.
J'imagine qu'il y a déjà de la compétition qui s'est installée sur ces circuits-là. Est-ce que tu peux nous en parler?
Écoute, on n'a pas encore parti notre propre ligue. Des gens peuvent réserver pour faire leur propre ligue à eux. Donc, s'ils ont 12, 20 personnes qui veulent participer à une ligue, puis ils veulent réserver le lounge, puis ils veulent venir à certains moments donnés faire des compétitions entre eux, puis ils veulent s'organiser pour avoir après la compétition de la bière, de la pizza ou même manger au restaurant, nous, on s'organise pour leur faire un package. Puis c'est leur propre ligue à eux, c'est eux qui s'en occupent. On a eu beaucoup de demandes. On travaille aussi conjointement avec les gens de La Croix Tuning, Bumper to Bumper, qui eux sont en train de préparer des événements pour leurs employés puis pour leurs clients dans le futur avec un concept un peu unique. Un peu comme le NASCAR avec élimination puis des playoffs. Donc ça va être vraiment propre à eux. Mais nous, dans le futur, Taggy Karting, on aimerait créer notre propre championnat et le prix au bout de la ligne, ça serait de faire partie de notre équipe de karting, de compétition, l'année d'après. Donc, encore une fois, on travaille beaucoup avec Sylvain Lacroix de Lacroix Tuning pour ça parce que c'est des gens qui sont... sont très supporteurs de ce qui est sport motorisé au Québec. Alors, je leur avais lancé l'idée de supporter ce championnat-là, de le commanditer, puis de commanditer un kite l'année d'après dans notre équipe de kiting, de compétition, donc pour promouvoir ces ligues de championnat-là. Donc, on travaille là-dessus, puis ça va venir avec le temps. Puis ça, évidemment, ça va être le fun parce qu'on va pouvoir avoir... plusieurs différentes configurations pendant tout le championnat qui sera créé, mais ça va être un championnat propre à Taggy Karting pour un quand même un prix intéressant. Puis ça fait qu'on initie le monde au karting, oui, de location, mais ensuite, on peut les amener dans notre équipe de compétition professionnelle qui court durant les week-ends de la Coupe de Montréal puis qui fait le championnat canadien. Alors ça, c'est une autre division qu'on a avec Taggy Karting parce que évidemment, on avait besoin d'un garage un peu plus avancé de compétition pour la maintenance de ces cartes-là assez complexes. Puis on s'est dit, ben tant qu'à avoir un garage pour faire la maintenance de ces cartes-là, ben pourquoi pas en même temps partir notre propre équipe. Puis CRG avait pas de distributeur canadien au niveau des produits de compétition.
Okay.
On est devenu. Puis en même temps, ben on a acheté une grosse rig de 53 pieds. Et puis, on a commencé notre premier week-end la semaine passée au circuit d'Icar, qui est un programme double de la Coupe de Montréal. Puis on était là avec 12 pilotes sous notre tente. Puis les gens représentent TAG Motorsport, CRG Canada. Puis on continue avec avec plusieurs pilotes tout le long de la saison.
Sur une note peut-être un peu plus personnelle en terminant, le karting dans ton parcours, ça représentait quoi pour toi?
95% de ma carrière, 95% de moi. Je te dirais que j'en parle beaucoup avec les parents en ce moment, j'en parle beaucoup avec les jeunes parce que je leur sers un peu de mentor dans l'équipe. Puis, tu sais, je m'aperçois que des fois, les jeunes sont un peu perdus. Ils se rendent pas compte ce que ça prend pour courir. Puis moi, évidemment, je viens d'une famille très modeste. Donc, c'est pas des investissements de millions de dollars qui ont fait que j'ai pu rouler en course automobile. Mais je te dirais que le karting, pour moi, avec mon père, ça a fait partie un peu de mon développement en tant que pilote, mais aussi mon éducation, tu sais, le respect, la discipline. Puis quand je suis parti de toutes mes saisons de karting que j'ai fait avec mon père, puis je suis arrivé en pro, ben je traitais mon équipe d'une bonne façon. J'ai traité mes mécanos tout le temps d'une bonne façon. Je me suis démerdé à être un pilote assez technique parce que des fois, avec du matériel un peu en déficience, j'étais capable de ressortir un peu de l'extra de certaines voitures. Puis ça a été ce que mon père m'a appris. Tu sais, mon père, il courait pas après les trophées. Des fois, quand que j'étais pas concentré ou j'étais dérangé par des amis autour de moi, il s'amusait à défaire le kart, puis à changer tous les réglages, puis je sortais en piste, puis la machine était, tu sais, exécrable. Puis là, il me dit, OK, tu veux qu'on la change, ben dis-moi ce qu'elle a, puis dis-moi ce qu'on a besoin de faire. Puis la prochaine fois, tu vas apprendre à rester sous la tente, puis pas aller t'amuser avec tes amis. Donc, c'était une école un peu dure, c'était tough. Des fois, il prenait mon kart, puis sans me le dire, j'avais qualifié sur la première ligne de départ à Sonneur, puis il met ça en 28e place. Puis là, je le regarde à comme 2 minutes avant que les cartes prennent le départ. Puis je dis, ben on est supposé être deuxième. Il dit, non, il se garde. Concentre-toi, là. Regarde-moi dans les puits. Puis quand je te fais signe que tu peux commencer à dépasser, go. Fait que, t'imagines un jeune de 12 ans qu'il se fait faire ça. Tu sais, c'était comme le couteau entre les dents. T'sais, j'étais choqué, les larmes aux yeux, je pilotais avec de la rage. Mais toutes ces choses-là que j'ai vécues avec lui, ça m'a servi à certains moments donné dans ma carrière, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Je repense à la pole aux 500 000 d'Indianapolis de 2011. On était une petite équipe d'une voiture. On compétitionnait contre les power teams de Ganassi, Penske, Andretti, avec 4 voitures, puis je te garantis que ces 4 tours-là, là, avec le couteau entre les dents, avec la voiture à la limite, puis survireuse au maximum, il n'y avait rien qui allait passer pour m'éviter de tout donner pour faire la pole. Puis, tu sais, ça, on est sorti de là avec une différence de je pense, 4 centièmes de mille à l'heure sur une moyenne de 4 tours entre Dixon puis moi. Puis, c'est toutes ces choses-là que je me rappelle, tu sais, dans ma carrière, où est-ce que peut-être que j'aurais approché ça différemment si mon père m'avait pas fait ce genre de parcours-là. Puis j'aurais peut-être dit, bah, c'est risqué, j'aime pas ça conduire avec une voiture lousse, puis je vais laisser un dixième sur la table, puis ben ce dixième-là m'aurait coûté peut-être la pause cette journée-là. Alors, tu sais, pour faire une longue histoire courte, je te dis que le karting, pour moi, ça a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma carrière.
Ça commence donc par là, le karting, pour n'importe qui aurait un intérêt pour débuter dans la course automobile. Ton entreprise, visiblement, va peut-être contribuer à former indirectement de nouveaux pilotes. Fait que j'imagine que le karting sera en augmentation au niveau popularité au Québec, espérons-le. Mais en contrepartie, on peut terminer là-dessus. Les circuits automobiles, c'est difficile. Les séries de courses, c'est difficile. On n'encourage pas énormément au Québec la course automobile. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Ben écoute, c'est un tu sais, c'est une question de mentalité. Je pense qu'il faut pas lâcher. Des fois, l'humain a tendance à toujours agir d'une manière à perdre ce qu'on a au lieu de préserver ce qu'on a. On l'a vécu un peu il y a quelques années avec la Formule 1. On a joué les gros bras.
Ouais.
Et puis, on a laissé les choses aller. Et puis, les hauts dirigeants de la Formule 1, ça leur a pris 2 minutes pour dire « Parfait, ça vous intéresse pas plus que ça? Parfait, on vous retire la F1. » Puis, quand on a perdu la F1 pendant un an, qui était hors COVID, là, il y avait beaucoup, beaucoup de commerces au centre-ville qui ont perdu des plumes. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des pertes économiques considérables. Donc, des fois, tu sais, il faut faire attention. Je pense, tu sais, faut pas attendre de perdre ce qu'on a. C'est un peu avec, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire au fil des années avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Moi, le Grand Prix de Trois-Rivières m'a beaucoup aidé, tu sais, dans mon développement puis dans ma reconnaissance de marque en tant qu'Alex a gagné le pilote de course. Donc, quand je coursais en IndyCar, à chaque fois que la cédule sortait, je regardais tout le temps s'il y avait une opportunité de courir au Grand Prix de Trois-Rivières durant la saison. Puis là, je me trouvais du budget pour venir courir en NASCAR pour contribuer en popularité à la course qui m'a, moi, aidé. Au lieu de dire, ben, j'habite à Vegas, je cours en IndyCar, puis merci, bonsoir, j'aide plus personne, tu sais. Donc, c'est un peu ça que tout le monde, tu sais, comme ensemble, dans la communauté qui est passionnée de course automobile, puis peut-être même ceux qui ne le sont pas, mais de pas seulement, tu sais, comme avoir un engouement pendant 2 week-ends par année quand on a le Grand Prix d'F1 puis quand on a la course de Trois-Rivières, de plus regarder, tu sais, les pistes locales, puis de voir que le sport automobile, c'est bon à son ensemble pour un peu tout, puis c'est bon pour même le comme je disais, une partie de l'éducation des jeunes, parce que quand tu fais du karting à bas âge, tu sais, tu vieillis vite, tu matures vite, t'es entouré d'adultes, des mécanos, les officiels de piste, c'est pas des jeunes de 12 ans là qui s'occupent d'une série. Donc toi, tu compétitionnes contre des jeunes de ton âge, mais tu fais affaire avec des gens qui sont adultes. Donc la discipline, aller te coucher le bonheur, faire des sacrifices, parce que c'est pas tout le monde qui est millionnaire, puis choisir ce que t'aimes, toi-même faire tes propres choix. Donc je dis pas que tous les gens qui font du karting vont sortir de là puis vont être des Lewis Hamilton, mais ça va pas les nuire. Moi-même, tu sais, quand j'étais jeune, je courais après de l'argent, puis j'allais au cégep, puis je m'habillais en chemise cravate, puis j'étudiais en sciences pures, puis en génie civil, puis le monde me regardait arriver en veston cravate, puis il me disait, c'est quoi que tu fais là, lui? Ben, parce que dès que mon cours était fini, j'allais voir des présidents, puis des gens au marketing, puis je cognais aux portes, puis j'avais besoin d'argent pour essayer de faire quelques courses en Formule 1600, puis essayer de commencer à ramasser du budget pour faire de la Formule Atlantique. Donc, tu sais, j'ai jamais étudié en marketing. Pourtant, tu sais, aujourd'hui, je suis quand même pas pire en marketing. Tu sais, j'ai peut-être pas toutes les connaissances que certains gens ont dans des compagnies, des multinationales, mais je me débrouille bien. Puis ça a été quoi? Ça a été la passion puis le désir de trouver un peu d'argent pour continuer ma carrière parce que j'en avais pas. Donc, il faut pas voir seulement le sport puis brûler des pneus puis tourner en rond là. Je pense que c'est plus grand que ça, le sport automobile, puis je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le voir.
Merci beaucoup, Alex, de ton temps. Alors, on va inviter les gens à aller découvrir ce nouveau commerce que tu as lancé, le Tag e-Karting.
Bien hâte de découvrir ça, moi aussi.
Qui est à côté de chez moi, fait que je peux pas m'empêcher d'aller faire un tour très prochainement. De toute façon, j'ai Fiston qui m'en parle quotidiennement. Alors, merci beaucoup pour ton temps, et à bientôt.
Hey, c'est un plaisir. Quand vous êtes prête à faire un tour, juste, gênez-vous pas, appelez-moi, puis je viendrai vous voir avec le Fiston en même temps.
Ça marche. Un gros merci.
Merci, Alex.
Bye bye.
Salut.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
La semaine dernière, Antoine, on n'avait pas eu le temps de répondre aux questions des lecteurs. On se reprend cette semaine. On a Rémi qui nous dit qu'il regarde dans l'usager, modèle 2018-2019, des voitures comme la BMW 440i, la Audi S5, Mercedes C43. Et il se questionne sur la fiabilité des, il le met entre guillemets, hard top. Et si c'est préférable qu'on roule l'hiver avec ces voitures-là. En fait, est-ce que c'est conseillé de rouler l'hiver avec ces voitures-là, où on est mieux de se trouver un autre véhicule pour l'hiver.
Puis là, évidemment, on parle de décapotable.
Oui.
Moi, d'emblée, je suis d'accord avec lui. Un toit rigide, comme sur la BMW, c'est, en ce qui me concerne, à proscrire. Et d'ailleurs, la nouvelle génération de BMW de série 4 n'a pas de toit rigide.
Donc, c'est un retour là, vers un système un petit peu plus traditionnel et donc plus efficace.
Et plus étanche, de toute façon, parce que c'est moins lourd, c'est moins encombrant, moins de risque de craquement, de bris, etc., etc. Il n'y a pas d'avantage à un toit rigide, honnêtement, pour une voiture décapotable. Alors, pour ça, j'élimine d'abord la BMW. Et si vous me donnez le choix entre une S5 et une C43, bien, je m'en vais chez Audi immédiatement pour l'ensemble de l'œuvre. Pas nécessairement pour l'étanchéité de la capote, parce que dans les deux cas, c'est très bien, mais la conduite de la S5 est nettement plus intéressante. Et oui, effectivement, vous pourriez rouler ça tout l'hiver sans aucun problème. Par contre, je recommande le traitement de votre toit avec un produit qui est fait pour ça. Vous le faites une fois, vous le nettoyez adéquatement à l'automne et vous appliquez un traitement protecteur sur la capote qui va vous coûter une vingtaine de dollars et vous allez être bon pour avoir un toit qui va demeurer en bonne condition parce que ça peut quand même coûter cher à remplacer.
On a Marc-André qui nous mentionne que la location de sa Chevrolet Cruze 2018 est sur le point de se terminer. Il aime beaucoup sa voiture et il cherche une voiture similaire. Il hésite entre une Hyundai Elantra 2021 et une Kia Forte 2021 aussi.
Bon, Forte...
Kia Forte 5, je le précise.
Ben, Forte 5 étant la version à hatchback.
Oui, exactement.
Bon, écoutez, vous avez deux voitures avec une motorisation très similaire, évidemment, si vous optez pour le 2 litres. Et c'est une mécanique avec laquelle on a connu des problèmes. Et on en connaît encore. Le moteur 2 litres de 147 chevaux, c'est un moteur qu'on remplace à tous les jours chez les concessionnaires. Il y a des rappels, il y a des bulletins de service pour ces mécaniques-là. J'ai un peu de misère à recommander l'achat de ces véhicules-là en ce moment pour ça. À moins, bien sûr, que vous ayez pour une location, comme vous avez fait pour votre Chevrolet Cruze, parce que vous allez demeurer dans les termes de la garantie tout au long de votre location. Si vous ne craignez pas d'avoir un problème avec le moteur, ben moi, j'ai pas de problème avec ça, dans la mesure où je sais que le constructeur va le remplacer en posant pas de questions, parce que c'est un problème connu. Mais recommander cette voiture-là pour le long terme, comme je le ferais avec une Corolla, non. Et je vous invite peut-être à aller voir la nouvelle Honda Civic. Je pense que cette voiture-là pourrait vous plaire également. À choisir entre l'Elantra et la Forte, ben, je te dirais que moi, j'ai peut-être un penchant pour la Forte 5 à Hyon pour son côté pratique, pour le fait qu'elle est peut-être un peu plus originale aussi, on n'en voit pas tant que ça, et parce que je ne suis pas un fan du design de l'Elantra berline, mais ça, c'est
vraiment... Et je te comprends.
Et c'est une question de goût personnel. Mais ce ne sont pas les voitures que je choisirais d'emblée en premier lieu. Pour remplacer une Chevrolet Cruze, je pense que la nouvelle Honda Civic, elle est très impressionnante et elle va vous satisfaire pendant tout le long de votre location.
On a Benoît qui se demande quel serait le meilleur choix. Et là, écoute bien, deux voitures très différentes entre une Honda Civic 2019 à Hyon et une Buick Regal Sportback. Il précise qu'il comprend très bien que c'est deux voitures différentes, mais elles lui plaisent toutes les deux. Il compte la conserver pour une période de 10 ans. Il remplacera sa Volkswagen Passat 2010 familiale qu'il a usée jusqu'à la corde.
Wow! C'est vrai que c'est deux voitures différentes. La Civic, c'est une voiture moins spacieuse, moins confortable. Ça n'a rien à voir avec une Passat. Là. On est ailleurs complètement. Alors que la Regal s'en rapproche beaucoup plus. Parce que la Regal, là, bon, vous entendez le nom Buick, puis vous pensez que c'est une voiture de grand-père.
C'est pas une Buick,
mais
là.
C'est une Opel Insignia qui a été importée ici, qui est une voiture dynamiquement très intéressante et méconnue. Extrêmement spacieuse, beaucoup d'espace dans le coffre, très confortable et assez amusante à conduire. Mais évidemment, c'est une voiture de faible diffusion. Donc, pour garder cette voiture-là très longtemps, le petit bémol que j'ai, c'est peut-être la disponibilité des pièces dans 10 ans. Qu'est-ce que ce sera? Ça sera peut-être pas évident de réparer cette voiture-là à moindre coût comparé à une Civic où il y en a partout.
Ce sera jamais un problème là pour une Civic.
Mais si vous me demandez demain matin quelle voiture je choisirais pour conduire au quotidien, je préférerais de beaucoup la Buick parce que c'est une voiture plus confortable, plus puissante aussi. Le moteur turbo qui est là-dedans est très intéressant. C'est un moteur reconnu chez GM. Et ben là, en plus, vous regardez peut-être une voiture qui est encore sous garantie. Garantie de base étant plus longue chez Buick que celle de Honda. C'est sûr qu'Honda, c'est une valeur sûre. Vous achetez ça, vous avez une bonne valeur de revente. Ça sera une voiture fiable, peu coûteuse à entretenir en long terme, etc. Mais vous allez perdre énormément en confort et en habitabilité, bien que l'habitabilité soit pas méchante. Alors, la Buick Regal, considérant sa dépréciation, parce que c'est une voiture plus chère aussi, je pense que ça peut être un très, très bon parti dans le contexte où vous remplacez votre Passat.
Bon, ben merci beaucoup, Antoine, et on se retrouve la semaine prochaine.
Absolument.
Cube Radio.